savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret, Sophie Torlotin.
Ravie de vous retrouver, bienvenue dans Tous les cinémas du monde, une émission consacrée cette semaine à Youssef Chahine. L'occasion de se replonger dans son œuvre universelle et pourtant furieusement ancrée dans son Alexandrie natale, une œuvre qui allie tous les contraires, réalisme et sens du baroque, solitude et amour de la communauté, divertissement et engagement politique. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
L'Égypte, l'Amérique, la France, trois pays où Youssef Chahine, que tout le monde appelait Joe, était chez lui aussi au cinéma, un pays qu'il n'a cessé de réinventer de ses débuts en 1950 jusqu'à son dernier film, Le Chaos. Chahine, disparu en 2008, qui ne vivait que pour et par le cinéma et le désir de tourner, eh bien, il était venu très tôt.
Moi, je rencontre des gens qui ont 28 ans et qui me disent, tu sais, je cherche je crois que j'ai envie de faire cette carrière ou l'autre carrière. À 28 ans, je trouve que c'était pas en retard. Moi, j'ai commencé à 7 ans. Alors, je dois leur dire comment j'ai commencé à 7 ans. Hein, j'allais sous la table et je faisais des ombres chinoises. Enfin, finalement, mes parents n'étaient pas totalement débiles. Ils ont compris que j'aime les ombres ou bien j'aime ça. Ils m'ont porté un petit pâté baby. Après ça, j'ai acheté un énorme appareil Gaumont vieux de 45 ans que j'ai acheté à 80 francs et que j'ai payé en 18 mois. Et j'étais dans mon petit coin du corridor. Et puis tout de suite, dès qu'on m'a dit non, on te préfère être ingénieur et tout ça, je dis non, je veux être cinéaste, point.
Je veux être cinéaste, point, dit Youssef Chahine. C'était en 1994 sur RFI au micro de Catherine Ruel. Alors autour de cette table, pour parler de ce grand cinéaste, peut-être le plus grand du monde arabe, disparu en 2008, pour parler de lui, Amal Germazi. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Vous êtes musicologue et vous écrivez un doctorat, je crois, sur Chahine.
Oui, exactement.
Sur les musiques films de Chahine. Régis Robert, vous dirigez le service archives de la Cinémathèque française. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
La Cinémathèque française qui lui consacre une rétrospective et une exposition. Alors cette exposition, on l'attendait depuis fort longtemps. On y a un aperçu du bureau de Chahine, avec toutes ses récompenses, les prix spéciaux reçus à Cannes. Bien évidemment, le premier grand prix international qu'il a reçu, c'était son petit ours d'argent au festival de Berlin en 79 pour Alexandrie. Pourquoi ? Sa tasse fétiche, on imagine qu'il buvait beaucoup de café. L'affiche de Gare Centrale, dont j'ai entendu dire qu'il avait fallu beaucoup de travail pour la restaurer, parce qu'elle était couverte de centimètres de couche,
ouais,
d'une couche de nicotine de plusieurs centimètres, c'est ça ? C'était un gros fumeur, Youssef Chahine. On y voit ses storyboards, on y voit les photos, on y voit des costumes. Et puis surtout, beaucoup de références au cinéma américain. Parce que c'est le cinéma américain qu'il a aimé déjà enfant et qui a aussi nourri nombre de ses films. Régis,
exact, exact.
Régis Robert.
En fait, Alexandrie, il y avait beaucoup à cette époque-là. Enfin, l'Alexandrie de Youssef Chahine, il y avait beaucoup de cinéma. Il y en a plus d'une quarantaine. Et surtout, ils ont eu la chance de voir les films américains qui étaient interdits en Europe à l'époque.
Parce que c'était la guerre,
tout simplement. Donc, ils ont pu voir toutes ces comédies musicales de la MGM, entre autres, qui ont fasciné cette jeunesse alexandrine. Mais ils voyaient également en parallèle. Et ils étaient bercés par la comédie musicale égyptienne. Donc il y a eu vraiment le mélange des deux et qu'on retrouve de toute façon dans ses films et dans son œuvre. Et les États-Unis, bien sûr, c'est là naturellement où il va aller apprendre la mise en scène. Parce que c'est ça en fait qui intéresse Chahine. Au-delà du cinéaste, c'est vraiment mettre en scène les choses. Et c'est pour ça, c'est un grand, grand maître de la mise en scène.
À Pasadena. En Californie. Amal Germazi, cette ville d'Alexandrie, qu'est-ce qu'elle a de... C'est une ville un peu spéciale, non, en Égypte ?
Alors, certes, c'est une ville égyptienne, mais l'Alexandrie que connaît Chahine pendant sa jeunesse, c'est l'Alexandrie des années 30 et 40. C'est une ville très cosmopolite. On y trouve des Égyptiens, des Libanais, mais aussi des Français, des Anglais, des Italiens. On y parlait cinq langues, et c'est dans cette effervescence culturelle que Chahine va grandir. C'est dans ce multiculturalisme qui va d'ailleurs influencer son cinéma plus tard.
Et il grandit dans une famille chrétienne, catholique. Mmh. Il grandit donc dans une minorité. Ce qui peut peut-être expliquer aussi cette créativité.
Peut-être oui, mais après, je ne crois pas que la question de la religion était là en premier plan. Il se posait pas forcément cette question à ce moment-là. C'est comme il le disait, c'était une salade et il faut bien le dire, tout le monde couchait avec tout le monde. Donc il y avait peut-être pas cette préoccupation de la religion en premier plan, mais oui, c'est
parce que c'était à cette époque-là effectivement et dans cette ville-là oui. Cosmopolite.
Mais c'était plus l'effervescence justement culturelle qui va l'inspirer.
بعد كده هتلر بنفسه وقدام 200 ألف نفر ملمومين حواليه وعدهم اسكندرية ادينا اهو
L'ouverture d'Alexandrie, pourquoi hein, un film, son premier film autobiographique, hein, c'est le premier de la tétralogie sur Alexandrie, donc c'est en 78. C'est une des plus belles ouvertures de films de Chahine et peut-être une des plus belles ouvertures de l'histoire du cinéma en général. Vous pouvez nous la raconter, Amal Germazi.
Alors, c'est la
ce montage
fois...
alterné entre Hitler et les naïades. Esther Williams.
Oui, alors Chahine revient sur un peu sur sa jeunesse, à Alexandrie. Et à travers son histoire, bien sûr, il raconte, il y a toujours un fond politique dans ses films. On le voit à travers l'histoire d'amour entre une juive et un musulman. Il aborde aussi les questions homosexuelles. Enfin, en tout cas, il y a toujours un fond politique, un fond militant. Et il cache ça derrière une simple, entre guillemets, je mets vraiment le mot simple, entre guillemets, une simple allusion autobiographique à sa jeunesse.
Et donc, il s'invente. Est-ce que c'est la première fois que ce double de cinéma, hein, puisqu'on retrouve ce personnage de Yehia, qui a évidemment le double de cinéma de Youssef Chahine dans nombre de ses films. Mais est-ce que c'est la première fois qu'on le voit dans Alexandrie? Pourquoi, Régis Robert?
Et dans tous les films de Chahine, il y a du Chahine. On peut suivre le personnage, même dans le premier, le personnage du petit garçon dans la famille de Papa Amine. On sait déjà, on peut déjà interpréter des éléments autobiographiques, mais c'est vraiment avec Alexandrie Pourquoi qui va employer le jeu, et ça va être la première fois dans le monde arabe qu'un artiste va employer le jeu pour une création artistique. Et ça fait suite en fait à un accident cardiaque qu'il a juste avant ce tournage-là, où il va commencer à dire je vais parler de moi. Il y a quelque chose de symbolique au niveau de cet accident cardiaque. Je vais parler avec mon cœur, donc je vais parler de moi. Donc c'est ce qui va se passer avec Alexandrie Pourquoi. Mais là, on citait les introductions. Alexandrie Encore et Toujours, il y a aussi une très très belle introduction où là, il fait référence à son personnage de théâtre absolu, qui est le personnage d'Hamlet. Et donc là, c'est quelque chose que vous avez dans l'exposition. C'est le to be or not to be, dit en arabe et chanté. C'est quelque chose de magnifique. Les séquences d'ouverture sont magnifiques chez Chahine, mais comme tout est pensé...
Tout est pensé, c'est-à-dire oui. Que, par exemple, dans celle qu'on vient d'entendre, en fait, pour l'expliquer, on voit des images d'archives, donc c'est l'arrivée de Rommel en Égypte, on est à quelques mois d'El Alamein, hein, la bataille qui va faire basculer la Deuxième Guerre mondiale. Donc on est à la fois, dans ce côté, il y a des images d'Hitler, on entend hein, que les héros dialoguent, ils parlent d'Hitler en arabe, et dans le même temps, on a les naïades d'Esther Williams, c'est-à-dire un pan, c'est la politique, et l'autre, c'est le cinéma américain, le rêve, la danse, les comédies musicales. On a l'impression que tout est là, déjà.
Mmh. Oui, il a su trouver un équilibre entre les deux, entre son amour de jeunesse pour le spectacle, pour la comédie musicale, pour la musique, pour la danse, et son souhait, son envie de faire un cinéma à fond politique et à fond engagé en général.
Dim hattat Masr, qalb el medina. Kull daqiqa biyطلع منها قطر وكل دقيقه بيوصل فيها قطر.
Alors on fait un petit bond dans le temps, en avant, hein, en 58, donc 20 ans avant Alexandrie. Évidemment, ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait, certains l'ont peut-être reconnu, de Gare Centrale. Donc où en est à ce moment-là de sa carrière Chahine? C'est-à-dire il a fait des films commerciaux et tout à coup arrive ce film qui est un peu un ovni dans le monde du cinéma arabe, Gare Centrale, c'est son premier film d'auteur, hein, pourrait-on dire. C'est l'histoire d'un maniaque sexuel qui tue les femmes dans une gare. Et bien entendu, c'est Youssef Chahine qui joue le rôle principal. C'est un peu son M le maudit, non, Régis Robert?
En tous les cas, vous dites bien entendu, c'est lui qui joue le rôle. En fait, il joue le rôle parce que personne d'autre n'a voulu le jouer et que c'était quelque chose de, c'était une telle transgression à ce moment-là de se lancer dans cette aventure. Il faut penser que ce film-là, aujourd'hui, ne passerait pas la censure dans l'Égypte actuelle.
Mais il a été interdit pendant 12 ans, je crois.
Bien sûr, Chahine s'est fait beaucoup, beaucoup d'ennemis. Voilà. Ça fait partie des grands films de l'histoire du cinéma. C'est là où on a pu se rendre compte qu'on avait affaire à un maître. Mais c'est vrai qu'il s'est quand même collé à ce qui était dans l'air du temps, puisque c'est un artiste qui s'inspire beaucoup de ce qui se passe autour de lui. Donc, on est à l'époque du néo-réalisme en Italie, à peine plus tard. Donc, il y a beaucoup cette influence-là.
C'est aussi la première fois, vous disiez que le film était très dérangeant, hein, pour l'Égypte du moment. Il est dérangeant à bien des égards. On y parle beaucoup de sexe, on y voit des femmes nues ou en tout cas presque nues. Mais surtout, c'est la première fois qu'on voit le peuple égyptien, le petit peuple, hein, si je puis dire, au cinéma. Parce que le cinéma égyptien de l'époque, il ressemble à quoi? Je crois que Chahine disait que c'était des grandes comédies bourgeoises.
Oui, c'est vrai que tout ce qui se passait en fait dans la comédie musicale égyptienne était faux. C'est-à-dire que les voitures qu'on voyait n'étaient des voitures qui n'existaient pas. Ils couraient un 100 mètres, ils arrivaient, ils étaient coiffés, etc. Tout était vraiment fait pour divertir. C'est ce que Chahine a apporté à ce moment-là. Mais c'est vrai que Gare Centrale, c'est pas vraiment une comédie musicale. Quoique, il met quand même des extraits musicaux dedans.
Mais si je me permets de rajouter quelque chose, c'est que c'était l'une des premières fois en Égypte qu'on tourne dans des décors réels. Et là, il a vraiment tourné dans la gare Bab el Hadid au Caire. Donc oui, et puis pour la première fois, enfin l'une des premières fois aussi dans le cinéma égyptien qu'on voit des mouvements syndicalistes parmi les ouvriers. Donc il aborde quand même pas mal de choses à part la question de la frustration sexuelle. Il aborde quand même pas mal de questionnements un peu gênants pour l'époque, oui.
Bien sûr, la guerre des castes aussi. On voit un couple impossible dans le film, puisque c'est une histoire d'amour, encore une fois, une histoire d'amour impossible entre un jeune bourgeois, ce qu'on retrouvera dans l'autre. C'est, si on visite comme ça l'œuvre de Chahine, on retrouve toujours les mêmes thématiques, et c'est vraiment quelque chose de très suivi. Et voilà, il y a ce couple-là qui est pas possible. C'est vrai qu'il y a plein de choses. À chaque plan, il y a de l'information. Vous pouvez voir et revoir des films de Chahine. Vous apprenez toujours quelque chose, et c'est ce que nous a donné justement ce fonds d'archives quand il est arrivé à Paris et que Amal a pu explorer en priorité. C'est que tout est pensé, le cadre, le mouvement de caméra, il y a un message derrière tout, dans le son, dans la lumière, dans tout.
Vous disiez donc que le film, hein, Gare Centrale, a été longtemps interdit en Égypte, mais alors il a eu les autorisations de tournage de ce film-là, en plus tourné au Caire? Dans la gare, la grande gare, il avait eu des autorisations.
Oui, bien sûr, oui, il a bien eu les autorisations. Après, ça a un peu dérangé au moment de la distribution du film, où ils n'étaient pas tous d'accord sur les sujets abordés.
Et il a tourné donc au Caire. On parlait d'Alexandrie, donc sa ville natale, mais c'est quand même il avait une véritable passion pour le Caire, Chahine.
Il adore les grandes villes. Il le disait d'ailleurs. Mes films ressemblent beaucoup à mon Alexandrie et mon Caire. C'est la pagaille. Et, il adore cette pagaille. Et justement, ses films sont toujours dans la profusion, dans le foisonnement. Ça part dans tous les sens, mais c'est quelque chose dans tous les sens, mais qui est très artistique, très contrôlé. Voilà, c'est ce qui est passionnant aussi dans le cinéma de Chahine.
C'est ça. Donc, il aimait contrôler. En même temps, il acceptait les accidents. Le fait de tourner comme ça sur
il se préparait beaucoup en amont. Donc une fois qu'il y avait la bonne version, parce qu'il pouvait y avoir jusqu'à 8 versions, il y avait à peu près 2 ans, hein, d'écriture. Et après, une fois que la bonne version du scénario était écrite, à ce moment-là, il se lançait dans une préparation, mais minutieuse. Et comme il a été formé au théâtre, en fait, il préparait ses tournages comme on prépare une pièce de théâtre. Donc il y avait beaucoup de travail de répétition qui était était fait en amont. Et comme tout était pensé, le cadre, le mouvement de caméra, il voulait accueillir cette improvisation, entre guillemets, mais qui en fait est justement une mise à disposition pour la mise en scène et pour le jeu des acteurs.
Youssef Chahine, en fait, il a eu deux chances. La première, c'était assez inouïe pour un cinéaste arabe, c'est-à-dire qu'il est arrivé, il a pu commencer à travailler dans une industrie qui était riche, on vivait à ce moment-là, les années 50, c'était l'âge d'or du cinéma égyptien. Et puis son autre chance, en tout cas c'est la question que je me posais, est-ce que ça n'a pas été aussi l'arrivée de Nasser ? Parce que Nasser arrive dans les années 50, hein, gare centrale, il est déjà au pouvoir, et il va décider de nationaliser le cinéma égyptien. Mais c'est aussi un grand moment d'espoir pour les Arabes, et l'œuvre de Chahine, elle porte ça aussi.
Bien sûr, et comme vous le dites, Nasser arrive, il est l'un des meneurs du coup d'État ou ce qu'on appelle la révolution des officiers libres en 52. Il arrive, il devient président en 56 et il arrive avec ses grandes convictions de panarabisme, de tiers-mondisme. Il est le leader de ces mouvements-là. Et donc, avec beaucoup de conviction, il a très vite compris le pouvoir du cinéma égyptien sur la société. Et c'est là qu'il nationalise le cinéma égyptien et qu'il finance d'ailleurs des films à grand budget pour bien mener sa politique.
Est-ce que Saladin, qui est sûrement le plus gros budget de Chahine, hein, qui est un film épique en costume, donc sur ce grand chef arabe victorieux des croisés, est-ce que Saladin a été initié par le pouvoir politique algérien ou c'était un projet personnel de Youssef Chahine ?
Égyptien, oui, c'était financé par le pouvoir, par Nasser. Et d'ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle entre le titre du film Saladin, qui se prononce en arabe An-Nasser Salahuddin, An-Nasser Salahuddin, et le nom de famille de Gamal Abdel Nasser, le président de l'Égypte. Donc, à travers le film, Nasser voulait aussi un peu, comment dire, flatter sa posture au sein de ce monde arabe et flatter sa posture comme un leader de ce mouvement pan-arabe et qui se veut le nouveau unificateur des nations arabes et le nouveau, enfin celui qui fait la conquête de Jérusalem dans les années 60. Oui, c'est sûr.
Est-ce qu'on sait dans quel état d'esprit il a fait ce film, Youssef Chahine ?
Ben, il répond à une commande, en fait, qui émane de Nasser. Donc, c'est pour lui, effectivement. Bon, il croit à ce moment-là, il croit à Nasser.
Est-ce que c'est vrai que Nasser lui a donné 20 000 soldats de l'armée égyptienne?
Oui, sinon, il le dit lui-même, Chahine, il y aurait eu beaucoup de morts.
Morts?
Oui, parce que ce sont vraiment des guerriers qui montent à cheval. Il y a des scènes de bataille extraordinaires dans ce film. Et Chahine dit, sans cet apport de militaires professionnels, ils se seraient tous marchés dessus quand j'aurais dit moteur et ça aurait vraiment fait des morts. Alors que là, c'est hyper bien contrôlé. Ils partent en guerre à chaque fois, ce qui a permis de réaliser ce film. Effectivement, Nasser va mettre à la disposition l'armée égyptienne pour tourner ce film. Mais comme plus tard, quand il tournera Adieu Bonaparte, ce sera aussi l'armée qui servira là de soldats napoléoniens, de figuration, oui.
Et on pourrait penser qu'un cinéaste arabe qui fait un film sur Saladin, donc qui combattait les croisés sur commande de Nasser, va faire un grand film de combat. Et en fait, en revoyant le film, on est très étonné de voir à quel point le fond du film, enfin sa colonne vertébrale, c'est un discours sur la tolérance.
Oui.
Amal Garmazi.
Exact. Contrairement à ce que pourrait le suggérer aussi le titre du film, là, on n'est pas du tout en train de défendre la cause musulmane dans cette guerre-là, mais plutôt c'est un discours d'ouverture sur l'autre, c'est une main tendue vers l'autre, c'est un appel pour le dialogue entre les cultures, entre les religions. Et oui, exact.
Et la politique, de toute façon, vous le disiez, Régis Robert, elle court toujours en creux des films de Chahine. Mais ça haine des intégrismes et des intégrismes de tous bords. Et j'insiste vraiment là-dessus, parce que ce n'est pas que l'intégrisme musulman comme on pourrait le croire. Elle va éclater plus de 30 ans plus tard, 30 ans après Saladin, avec le Destin, donc qui raconte, qui retrace le combat du philosophe arabo-andalou Averroès contre l'intolérance. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il fasse un film aussi, qui aborde la question de l'intolérance, des guerres de religion aussi frontalement?
Alors, il faut savoir que que je rappelle juste que dans les années 90, les intégristes musulmans multiplient leurs gestes de haine en Égypte, mais aussi en Algérie, qui vivait en pleine guerre, en pleine décennie noire. Et Shaheen, à ce moment-là, pense à faire un film inspiré du récit biblique de Joseph et ses frères. Donc, il réalise Les Migrés. Ça ne plaît pas, bien sûr, aux intégristes. Pour les musulmans, alors c'était parce que c'est interdit chez les sunnites de personnifier un prophète. Mais ce qui est rigolo, c'est que les intégristes aussi chrétiens s'étaient retrouvés d'accord aussi pour la censure du film, mais avec des arguments opposés à ceux à ceux musulmans. En tout cas, Shaheen n'a pas pu échapper à un procès.
Et le film... Il avait écrit deux cartons, c'est ça, un carton pour la version arabe et un carton pour la version
exact.
Française.
Shaheen est champion, ça. Il a parfois j'oserais pas dire un double discours, mais presque. Et là, dans le même carton, sur le générique, on voit écrit en arabe que cette histoire n'est que le fruit d'une imagination et que toute coïncidence avec la réalité n'est que fortuite. Et puis dans la partie française, il dit que ce film est inspiré de l'histoire biblique de Joseph. Donc c'est justement ce que va relever un avocat chrétien en Égypte, et c'est pour ça qu'il va...
Et après avoir été attaqué par les islamistes, il va être...
Voilà, attaqué par cet avocat-là. Donc en réponse à cette dérive de l'islam, en réponse à cette montée de haine et d'intolérance en Égypte, il réalise Le Destin. Et là, il revient à une période de l'islam des Lumières. Il se réfugie derrière une réalité historique, c'est l'histoire d'Averroès. Mais on ne peut pas s'empêcher non plus de voir un jeu passé-présent très, très incontestable. Il est là avec les anachronismes, avec plein de détails comme ça, très anachroniques, qui font du film un film très, très contemporain.
C'était un rebelle, Youssef Shaheen, rétif à toute autorité de quel type qu'elle soit.
C'est sûr, il disait qu'il n'avait peur de rien.
C'était là sa force, en fait. C'est qu'il n'avait peur de rien, de rien.
Parce que Amal nous expliquait hein, comment il jouait toujours un double jeu avec la censure. Mais c'est quand même incroyable ce qu'il est arrivé à faire passer dans ses films. Y compris, on parle de censure politique, mais y compris, il y a des allusions homosexuelles dans les films de Shaheen, il y a des histoires d'amour dès Alexandrie, pourquoi, entre un aristocrate égyptien et ce soldat britannique.
Ce qui va valoir l'interdiction du film par la Ligue du Monde Arabe à ce moment-là, enfin la Ligue Arabe, pardon. Donc le film va être encensé rive nord de la Méditerranée, puisqu'il va même obtenir le prix l'Ours d'Argent à Berlin, mais par contre, il va être interdit. On a appris récemment que au Liban, il avait été vu grâce à une projection de l'OLP qui était très encadrée. C'est comme ça que Nasser Arafat avait vu ce film. Arafat, pardon, avait vu le film. Donc oui, de toute façon, lui s'est toujours battu contre la censure. Mais comme il disait lui-même, pour lui, c'était des gens bêtes. Donc ils étaient faciles à rouler dans la farine, les censeurs. Ça, c'est quelque chose qu'il a répété. Et c'est vrai qu'il s'est roulé dans la farine, mais parce qu'à côté de ça, il a un talent mais incroyable, incroyable pour dire les choses, et en musique et en chanson.
Alors justement, en chanson, on disait tout à l'heure que Le Destin était un film de combat, mais un peu comme Saladin, c'est-à-dire c'est un film de combat, mais en chanson. Alors on va faire une petite pause musicale tout en restant dans l'univers de Shaheen. C'est une première dans tous les cinémas du monde, puisque Amal Germazi, vous êtes venu avec votre violon.
Oui.
Et vous nous avez proposé de jouer la musique, enfin la bande originale magnifique du Destin.
Oui, j'ai choisi de jouer à Ali Sotak, Entendre ta voix, en chanson. Il est toujours possible de chanter, quoi qu'il nous arrive. On continue à se battre. Et les armes pour garder cet optimisme, c'est la musique et la danse.
C'est parti. Thank you. Spéciale Youssef Chahine sur tous les cinémas du monde avec nos invités Amal Germazi et Régis Robert, les deux commissaires de l'exposition Youssef Chahine à la Cinémathèque française. Chahine, né à Alexandrie en 1926, mort au Caire en juillet 2008.
Le cercueil de Youssef Chahine a fait son entrée dans la cathédrale de la Résurrection, recouvert du drapeau égyptien. Une égyptianité que Chahine a toujours revendiquée, même si sa famille était d'origine libanaise. Photographe et caméraman avaient envahi l'hôtel byzantin et même la chaire. Ils étaient à l'affût des célébrités et il y avait de quoi faire. Beaucoup d'acteurs célèbres, des intellectuels, des hommes politiques, des diplomates et des anonymes. En fin de cérémonie, les Kyrie Eleison et Alléluia ont fini par recouvrir le sourd brouhaha des journalistes. Le temps de prononcer l'oraison funèbre avant que le cercueil ne parte pour Alexandrie. Une cérémonie qui n'était peut-être pas grandiose, mais qui avait le mérite de rassembler chrétiens et musulmans à un moment où la tension monte entre les deux communautés. Cela aurait sans doute plu à Youssef Chahine.
Un reportage de notre correspondant au Caire, Alexandre Bouchianti, donc sur les funérailles de Chahine en 2008. Donc beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'artistes présents à ces funérailles. Qu'est-ce qu'il représentait, Chahine, dans le monde arabe? C'était une grande voix, Amal Germazi.
C'est sûr, oui. C'est un porteur de beaucoup de valeurs humanistes. De tolérance, d'ouverture sur l'autre, d'invitation au dialogue, de parler d'égal à égal entre occidentaux et orientaux. C'était un homme très engagé et très humaniste. Et je crois que c'est ça qui fait la différence. C'est ce côté très humaniste, très modeste en lui et puis porteur d'engagement.
On raconte que quand on allait au Caire, il suffisait de dire au chauffeur de taxi qu'on allait chez Chahine pour qu'ils vous conduisent immédiatement à ces bureaux rue Champollion. Est-ce que c'est vrai, Amal?
Oui, c'est ce qu'il disait, oui, c'est ce qu'on dit. Et puis parfois, quand
c'est
on l'envoie par...
C'est un cas unique au monde.
Oui, par poste aussi, j'ai dû lire ça quelque part. Quand on envoie un courrier par la poste, il suffit de mettre Youssef Chahine et le courrier arrive au bon endroit.
Oui, je crois que c'est même post-mortem, puisque moi, je n'ai pas, malheureusement pas connu Youssef Chahine. Je suis arrivé dans l'appartement 2 ans après son décès. Mais c'est vrai que je n'avais rien dit de spécial à l'hôtel. Mais le fait d'arriver avec Marianne Coury dans le hall de l'hôtel, ça
Marianne
a fait...
Marianne Coury qui est donc la
nièce de Chahine, la productrice, réalisatrice, voilà, avec ses frères, donc Gabriel Coury, notamment, et qui ont pris le relais et qui gèrent la maison Misre au Caire. Et tout l'hôtel était au courant que j'étais en train d'expertiser les archives de Chahine. Oui, ils sont très, très importants et très reconnus pour justement leur engagement et n'avoir peur de rien. Voilà.
Youssef Chahine, c'était un dieu vivant au Caire. J'ai entendu dire aussi, ou j'ai lu qu'il y avait des tours, il pouvait comme ça tourner dans la rue, des sortes de tournages sauvages, mais qu'en même temps, voilà, il était respecté dans cette quand même mégalopole.
Oui, c'est sûr, il était très respecté. Après, c'était un peu mitigé aussi la réception de ses films, parce que justement, il osait aborder des sujets très très délicats et très tabous dans la société égyptienne. Donc oui, c'est sûr, pour l'homme, on avait beaucoup de respect. Pour les films, c'est un peu plus mitigé que ça.
Enfin, au moment du procès de l'émigré, il se faisait insulter dans la rue et ça a duré, puisqu'il a quand même été avec le garde du corps pendant 2 ans. Donc comme il n'était pas musulman, il n'avait pas de fatwa sur lui, mais il était menacé. Et il y a des extraits qu'on a mis dans l'exposition où on voit les artistes sont d'un côté et le peuple, la rue est de l'autre côté et ils s'insultent vraiment. Non, c'était pas un dieu vivant, c'est sûr, c'était quelqu'un qui dérangeait beaucoup, mais qui n'a pas forcément été compris au moment, enfin en tout cas de son vivant, qui n'a pas forcément été compris par le peuple. Ses films n'ont pas forcément été compris, oui, à ce moment-là.
Et pourtant, il n'a jamais été. Il devait avoir peur par moment pour sa vie, Parce que Nagib Mahfouz, hein, l'immense écrivain, s'était fait agresser, poignarder, je crois.
Oui. Et justement, c'est il lui fait un clin d'œil dans le destin avec le coup de poignard que reçoit le barde. On n'aura jamais su s'il y avait un barde à l'époque d'Averroès qui aurait reçu un coup de poignard, mais le coup de poignard dans le cou, c'est Nagib Mahfouz qui l'a eu, Nagib Mahfouz qui a eu un prix Nobel de littérature dans les années 80, il me semble, et il a été poignardé dans la rue au Caire. Oui.
Alors, dans l'exposition, vous en parliez tout à l'heure, Régis Robert, on voit Chahine au travail et on voit des storyboards d'une précision incroyable. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer parfois, hein, quand on voit les films de Chahine, ils ne sont pas complètement exempts d'un certain chaos, dira-t-on. Et au contraire, sa façon de travailler était très très précise. Et puis il y a cette histoire, alors vous allez me dire l'un et l'autre, hein, si elle est vraie ou pas. Il paraît qu'il écrivait ses scénarios en trois langues. Ça fait partie de la mythologie de Chahine, hein, comme les cahiers multicolores de Romère, les dialogues en arabe, les mouvements de caméra en anglais, et disait-il, les scènes de sexe en français. Est-ce que c'est vrai?
Presque tout est vrai. Non, en fait, le français, il était employé pour l'écriture, l'histoire. C'était pour lui la langue noble de l'écriture. L'anglais, c'était effectivement principalement pour la technique, parce qu'il a étudié à Pasadena aux États-Unis. Mais c'était aussi parce que c'était la langue de Shakespeare. Shakespeare, c'est son auteur absolu. Et l'arabe, c'est la rue où il va capter. Il y a plusieurs endroits comme ça dans le Caire où il passe du temps et il capte comme ça la rue, et ça va se retrouver dans les dialogues. Ça, c'est effectivement la mythologie. Mais quand vous regardez de près les archives, vous pouvez avoir une collision de ces trois langues. Et c'est ça qui était Chahine. C'est-à-dire que vous pouvez avoir dans une même phrase les trois langues qui sont employées, mais même des fois un mot inventé qui prend des racines dans ces trois langues. C'est pour ça d'ailleurs que on a voulu respecter ces trois langues dans l'exposition, qui est donc en français, arabe, anglais, parce que c'était important de respecter ça, parce qu'il y a déjà cette volonté d'utiliser toutes les langues qui étaient ces langues présentes. Lui, il en parlait cinq, hein, qui étaient présentes dans cette Alexandrie-là, qui était une ville de tolérance et d'échange où les gens se parlaient et vivaient les choses comme ça, dans un perpétuel échange.
Il paraît qu'il écrivait dans ses scénarios la façon dont les acteurs devaient prononcer les phrases. Non, ça c'est la légende.
Non, peut-être
c'est
pas
ça, c'est
parce
la légende
que...
de Chahine.
Oui, alors il était très minutieux dans sa préparation pour justement se libérer sur le tournage pour diriger les acteurs. Mmh. Et oui, donc la précision, elle est là sur le plan technique, mais après la façon de jouer,
c'est vraiment le tournage, c'est ça, c'est sa spécificité. C'est-à-dire comme tout est préparé d'un point de vue technique, c'est au moment du tournage où il va jouer tous les personnages. Faut pas oublier que c'est un acteur au départ, donc il vient vraiment du jeu d'acteur, et il va pouvoir se concentrer comme ça sur le jeu d'acteur. Et il y a un formidable témoignage qui est une rareté qu'on a effectivement exposé de Dalida, qui explique comment elle lâche la Disco Queen pour faire cette grand-mère qui est Sadika, et pourquoi
dans le sixième jour,
oui. C'est parce que Chahine, tout simplement, il explique tellement bien, il dit tellement les choses qu'ils ne peuvent que se donner. Il faut pas oublier non plus que c'est un formidable découvreur de talent. Il va comme ça dans la rue croiser un garçon qui trouve magnifique, et il lui dit, il faut que tu fasses du cinéma absolument. C'est le jeune Michel Chaloub. Il le fait tourner avec la grande star.
Alors Chaloub, il faut dire.
Qui deviendra Omar Sharif. Et il va comme ça inventer l'Oriental Lover.
On va en parler tout à l'heure, Régis Robert. En attendant, je voudrais vous faire entendre la voix d'une autre découverte, hein, si je puis dire, de Youssef Chahine. C'est Patrice Chéreau. On connaissait Patrice Chéreau, réalisateur, metteur en scène de théâtre. Là, il va inventer le Patrice Chéreau acteur. C'est dans Adieu Bonaparte.
J'aime. J'aime. Tu aimes.
J'aime sans contrainte.
Sans honte. Sans pudeur. Passionnément.
Seule l'exaltation aiguë d'un Caffarelli pouvait déchirer le silence de ces lieux sacrés. Comme je vous comprends, c'est un grand moment.
Oui, comment non?
Imaginez-vous, mon cher Louis, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent.
Ça y est, il s'est fait avoir.
Vous dites?
Je savourais, comme cela vous vient, l'aspiration.
1984, Adieu Bonaparte, hein, sur la campagne d'Égypte du jeune Napoléon Bonaparte, joué par Patrice Chéreau. Caffarelli, c'est Michel Piccoli. Alors, Il va découvrir des comédiens, Youssef Chahine, entre autres bien sûr Omar Sharif dans Ciel d'Enfer. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire que de la même manière, Dalida dans Le Sixième Jour, Patrice Chéreau dans Adieu Bonaparte, il les invente au cinéma? Il les invente en tant qu'acteur.
Je crois qu'il sait reconnaître, le talent, ça c'est sûr, et il sait reconnaître les capacités des uns et des autres. Pour Dalida, il rend hommage à son courage. Il sait que c'est une femme courageuse. Et pour Chéreau, comme il se trouve qu'on a les deux fonds d'archives à la Cinémathèque française, moi je pense qu'ils sont très très proches tous les deux dans leur manière de travailler. Et là, on a affaire à deux grands maîtres de la mise en scène qui vont se retrouver. Je pense que ça n'a pas dû être évident pour Chéreau de lâcher prise.
Deux maîtres du contrôle.
Oui. Ouais, ouais. Je pense que ils ont aussi en commun cette passion pour Hamlet, tous les deux, que Chéreau va mettre en scène aux Amandiers et Chahine ne pourra pas aller jusqu'au bout. C'était un de ses grands projets, Hamlet. Donc je pense qu'ils parlent la même langue, ces deux-là. Ils parlent la même langue de la mise en scène, du théâtre. Et Chéreau aussi est un formidable découvreur de talent. Donc je pense qu'il y a eu une belle rencontre là-dessus. Et je sais pas si ça a toujours été facile pour Chahine de diriger Chéreau, mais je crois que Chéreau s'est vraiment laissé aller une fois sur place. Il s'est vraiment laissé aller à cette mise en scène, oui.
Ahmad Germazi a découvert énormément de jeunes talents en Égypte, Youssef Chahine. Parce qu'on parle d'Omar Sharif. Mais il y en a des dizaines.
On parle d'Omar Sharif, mais pas que Omar Sharif. Il a découvert Mohsen Mohyeddin, qui était un joueur de handball en Égypte. Il n'allait pas du tout faire une carrière d'acteur. Et là, il le découvre pour Alexandrie. Pourquoi ? Donc, c'est d'ailleurs Mohsen Mohyeddin qui joue le rôle de Chahine, qui joue le personnage de Yahya, le jeune Chahine, et qui va accompagner Chahine dans plusieurs films, dans Adieu Bonaparte et dans Le Sixième Jour.
Il y a Fatena Mama aussi.
Alors, Fatena Mama, c'est un peu différent. Elle avait déjà commencé sa carrière dans le cinéma au moment où... Donc, Fatena Mama joue déjà dans le premier film de Chahine, Papa Amine. Mais avant Papa Amine, elle a eu déjà des apparitions dans le cinéma. Elle avait joué dans 19 films.
C'était une enfant star. Elle a commencé très tôt.
Mais c'était son premier rôle important dans le cinéma. Oui, voilà. C'était pour la première fois qu'elle prenait la tête d'affiche.
On peut comparer le couple, d'ailleurs, Fatena Mama et Omar Sharif avec Liz Taylor et Burton. C'est exactement la même histoire. C'est-à-dire que Fatena Mama, c'était la Liz Taylor à l'époque du monde arabe qui joue dans des films pour enfants. Et tout d'un coup, il y a un premier grand rôle.
Si vous n'êtes pas amoureux de tout vos personnages et ce qu'il représente, et la synthèse entre l'être humain et le personnage aussi, hein. Vous avez des mots écrits sur un papier et puis qui deviennent organiques à travers le battement de cœur de quelqu'un. Alors même, je disais, moi je me rappelle, il y avait une actrice qui était très gentille, mais elle était bête comme ses pieds, parce que dès qu'elle rentrait sur le plateau, elle me disait, moi, attention, il faudra me terminer à moi parce que j'ai une télévision à faire. Quand déjà dans son contrat, elle n'a pas le droit même de respirer sans me demander la permission. Alors je ne l'aimais pas. Et je ne savais pas comment la cadrer. Parce qu'un gros plan, ça peut être juste sous la nuque, ou un peu plus loin, un peu plus près. Quel est le gros plan de ce moment-là en particulier? Et c'est moi qui cadre. Et c'est moi qui mets l'objectif. Certainement avec l'acceptation du directeur de photo, mais il sait que c'est moi qui va cadrer en tout cas. Et parfois je dis, un centimètre devant un centimètre, c'est ridicule, ça ne fait pas une chose. Mais moi, c'est exactement comme quand vous faites l'amour, hein, le quart de millimètre fait une différence. Vous le faites mieux, vous le sentez plus, vous le sentez moins. Alors, et j'ai une jouissance extraordinaire de voir que l'image et le sentiment que j'ai s'unifient à certains moments. Et si ça ne marche pas, je dis non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne jouis pas en regardant le plan. Alors pourquoi voulez-vous que je mette de sale gueule devant moi que je n'aime pas? Et la sale gueule, ce n'est pas question simplement de beauté. Et je l'ai dit dans un de mes films, prends mes yeux et regarde-le, ou bien prends mes yeux et regarde-le. Ça veut dire voilà ou vois-le à travers mes yeux. Et qui sont en général le regard de l'amour.
Mes yeux qui sont en général le regard de l'amour, ça c'est magnifique. C'était Youssef Chahine, c'était en 2006, une interview accordée à France Culture. Ils sont magnifiques ces mots.
Oui, là, les deux mots principaux ont été dits et qui sont Chahine, c'est le cœur, c'est le langage du cœur et l'amour.
L'idée que les mots de papier deviennent vivants grâce au battement de cœur de l'acteur, c'est une image formidable.
Oui, c'est même une réalité, peut-être que tu vas pour nous le dire, Amal, comment il était avec les battements de cœur pour justement juger le rythme d'une scène.
Ouais, il prenait les rythmes des plans en mettant la main sur le cœur pour avoir le bon rythme et le bon nombre de battements de cœur.
La main sur le cœur des
acteurs.
Non,
la main sur son cœur à lui.
Sur son cœur à lui. Son cœur qui avait été opéré plusieurs fois.
Mais voilà, et là il fait un cinéma à cœur ouvert.
Et ça se ressent dans l'utilisation des musiques. Il avait une oreille musicale particulière.
Alors, comme il le disait, il touchait un peu à tout. Et bien sûr, à la musique et à la danse. Donc lui, il aimait beaucoup danser. Pour l'anecdote, c'est d'ailleurs ce qui lui a permis au départ de dragouiller les filles quand il était aux États-Unis.
Parce qu'il est un grand séducteur, hein.
Je crois. Et puis pour la musique, ce qui est passionnant chez lui, c'est que il n'était pas musicien vraiment, mais il était très mélomane. Il avait une grande sensibilité pour la musique et il se permettait de donner des indications très précises à ses compositeurs. Il pianotait lui-même, puis il s'enregistrait au piano pour leur.
Oui, quand même.
Pour leur. Oui, mais il pianotait, mais oui. Mais oui, c'est vraiment quelqu'un de très sensible à la musique. Et puis il a même inventé un système de notation musicale. Alors, oubliez les partitions, oubliez les portées musicales à 5 lignes. Il a inventé une sorte de diagramme avec des flèches. Alors, c'est un système après très cohérent. j'ai essayé de déchiffrer pour mes recherches doctorales. C'est très cohérent comme système, et bon, c'est assez original.
Mais ça marche aussi sur des octaves.
Oui, ça marche. Et puis lui-même, il va composer une chanson qui s'appelle Ablema dans Silence en tourne en 2002. Et on a la partition dans ces archives-là, donc c'est cette pseudo-partition justement où on a les noms des notes, puis des flèches, des symboles, des tirets sur le... Voilà, c'est assez cohérent.
Il a donné des cours pendant 30 ans, Youssef Chahine. On parlait tout à l'heure de cette génération d'acteurs égyptiens qu'il a découvert et puis formé. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il a formé ou influencé toute une génération de cinéastes en Égypte? Parce qu'on pense bien sûr à Yousri Nasrallah, mais il y en a des dizaines d'autres.
Bien sûr, il était très préoccupé par la transmission. C'était très important pour lui, la transmission de cet amour, de ce savoir-faire du cinéma. Et puis il a beaucoup travaillé avec. Il découvrait les talents d'acteurs, mais il découvrait aussi les talents de réalisateurs. Je vous avais cité Yousri Nasrallah. Moi, je cite.
Le temps que ça te revient, en tout cas. Non, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est dans la transmission, mais tout le temps, et dans le dialogue. On a eu beaucoup de retours de gens qui ont travaillé avec lui, de cette écoute et de cet échange. Il pouvait parler et pouvait comme ça dialoguer pendant des heures et des heures sur n'importe quel sujet. Et c'est vrai que, comme il l'a dit lui-même à la fin de sa vie, qu'il avait tout, il a tout sacrifié à son art et qu'il ne regrettait rien parce que ça valait vraiment la peine. Mais il n'a fait que ça de toute sa vie, de travailler, de transmettre, d'échanger, de se cultiver énormément. Il avait une bibliothèque formidable, Youssef Chahine. Il s'intéressait à tout, toutes les disciplines possibles et inimaginables. Moi, j'ai eu accès, même avec Amal, on a eu accès qu'à l'appartement professionnel, mais déjà la bibliothèque de l'appartement professionnel était incroyable. Il pouvait aussi bien y avoir des thèses universitaires que des ouvrages de vulgarisation. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui s'intéressait, mais qui redonnait comme ça, qui avait une générosité.
Oui, c'était Khaled Youssef, justement, le réalisateur dont je me souvenais plus. Et puis il disait, comme il n'avait pas d'enfant, il n'a jamais eu d'enfant, donc il considérait ses étudiants dans l'école comme ses enfants. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était vraiment dans la transmission du savoir.
C'est un magnifique mot de la fin. Merci. Merci Amal Germazi.
Merci beaucoup.
Merci Régis Robert.
Merci à vous.
Et vous parliez du film tout à l'heure. Amal, on se quitte avec la musique de Silence, on tourne. Une musique dans laquelle il rend hommage justement à Naguib Mahfouz et à tous les intellectuels égyptiens. Voilà. grosse actualité Chahine en ce mois de novembre, une exposition et une rétrospective à la Cinémathèque française à Paris, ça c'est jusqu'au 28 juillet. Il faut signaler aussi la sortie précieuse de 12 de ces films en salle à Paris. Et puis pour tous ceux qui n'habitent pas la capitale, on signale un livre, Youssef Chahine, Le révolutionnaire tranquille de Toufik Hakem. C'est un livre d'entretien avec Chahine paru aux éditions Capricci. Et puis on nous l'annonce pour le mois d'octobre 2019. Et on l'attend avec impatience, un coffret Chahine. C'est aux éditions Tamassa. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation Fanny Renard.
Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma. On parlera cinéma russe cette fois-ci à l'occasion de la sortie de L'Étau de Kirill Serebrennikov, un film magnifique qui nous avait éblouis à Cannes en mai dernier.
حبيب متحمس لو حتى